I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, de bonnes vacances et que vous n'avez pas trop d'aigreur d'estomac. Si vous en avez, n'hésitez pas à utiliser Gaviscon. Gaviscon, votre partenaire stomacal. C'est faux, hein, c'est une fausse pub, mais c'est aussi pour dire que je suis open à n'importe quelle entreprise mondiale, voire même un pays, pour faire de la pub dans mon podcast. Voilà. Donc, si jamais il y a des dictatures d'Asie du Sud-Est qui ont besoin peut-être de redorer leur blason en France, bim, qui est-ce qu'on appelle ? C'est moi, ok ? Je vais être là à base de, bah, je suis désolé, mais le système carcéral philippin, est-ce qu'on peut pas en apprendre, en fait ? Je pourrais dire des choses comme ça, donc faites passer le message à vos ambassades sur... En attendant, je vous laisse avec cet épisode, un petit cadeau de Noël, un épisode très drôle avec Charlie Niobé et Kevin Robin. Et on a même eu à la fin une petite intervention de Sophie Bergeau qui, il se trouve, était là parce qu'elle a le don de se téléporter à chaque fois qu'un podcast est enregistré en France. Voilà, il faut le savoir. Abonnez-vous à tous ces humoristes, suivez ce qu'ils font, écoutez leurs blagues. Tous les épisodes sont aussi présents sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas pourquoi vous écouteriez des podcasts sur YouTube, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui le font, j'essaie de ne pas les juger, c'est un peu dur, mais il faut qu'on les accepte aussi. Mais au moins, ben, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche, etc. pour que vous soyez prévenus à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo drôle. Tous les liens des réseaux sociaux, des sites web et surtout de mon spectacle sont sur la description. Je serai donc en spectacle à partir du 13 janvier, tous les jeudis à 21h30, au théâtre La Petite Loge, métro Pigalle. Venez, on rigole beaucoup et j'avoue que je m'y plais bien à jouer là-bas et jouer une heure, voire même un peu plus d'une heure. Je me suis retrouvé à faire une heure et quart la dernière fois. Et parce que j'ai plein de choses à vous dire, en fait. C'est ça, le problème. C'est comme quoi, même le podcast, ça suffit pas. Je sais pas s'il faudrait pas que je crée une chaîne télé. Voilà. Merci à tous les contributeurs Patreon qui ont bénéficié de cet épisode, d'ailleurs, en non censuré depuis quelques temps déjà. N'hésitez pas à faire comme eux si vous voulez des goodies en exclu. Et on se voit et on s'entend l'année prochaine, hein, puisqu'on sera en 2022. Voilà. Si, bien entendu, vous faites ce genre de blague devant moi d'ici le 31 décembre, je vous signalerai à la DAS et vos enfants seront élevés par des gens qui ne sont pas des monstres comme vous. Voilà, bisous à tous.
De faire les mêmes blagues ici, mais ça ne passait pas. Il a essayé de faire l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès,
ouais.
Mais là-bas en Belgique, il a caricaturé le personnage. Les gens, ils pleuraient de rire. Il est arrivé ici en France, il a fait la même chose. Malaise.
Ouais.
T'as même un invité qui a dit à Ruquier, oh, mais là, c'est malaisant. Quoi.
Ah ouais? Mais est-ce que c'est la télé ou parce que j'ai l'impression qu'en vrai, si tu le fais en public, juste normal, je veux dire, sur une scène, ça rigole. Ils rigolent, genre. Mais peut-être qu'à la télé, on a moins l'habitude d'une télé qui... où ça fout de la gueule de quelqu'un.
C'est ça, c'est peut-être aussi vraiment sur le moment, ça n'a pas marché, quoi.
Bah non, je pense qu'on a un gros problème ici.
Non, mais ce mec qui est vide, il est en mode. Non, mais il est... ce qu'il essaie de te dire, c'est qu'il est nu. Non, il est nu, ton gars.
Je vois pas qui c'est, mais.
Déjà, il fait des personnages.
Il fait des personnages, oui. Il m'a dit deux fois.
Écoute, j'essaye de construire une personne dans ma tête. Il met des perruques.
Prochaine question.
Est-ce qu'il a mis des perruques quand il est allé?
Est-ce qu'il met des perruques?
Est-ce qu'il met des fausses lunettes et il a combien d'accessoires? Combien d'accordéons?
Est-ce qu'il est seul? Attends.
Mais
tu vois, et là, je pense qu'on est confronté à un problème là. Je vous cache pas, les gars. Niveau.
Ok, d'accord. Oui, donc oui, il se grime quoi.
Exactement.
Non, mais c'est un peu ce que faisait Foresti
il y a 105 ans. C'est pour ça que Ruquier a bien aimé aussi. Après Foresti et tout ça, j'ai l'impression que tout le monde a abandonné l'humour à la télé. Il y avait plus de... Il y a plus de trucs fun.
On ne demande qu'en rire, il y avait.
Ah ouais, ouais. Après, ça, quand même. J'avoue que... Non, ça... Ok, je reformule, c'est moi qui ai abandonné l'humour.
Non, mais par contre, oui, de ouf. Hein.
T'es peut-être en coma, peut-être en fait.
Non, mais je pense que vraiment, je me suis plus... intéressé quand déjà j'aime pas les trucs de concours, donc en vrai moi on me demande qu'en rire, j'ai jamais regardé. Moi c'était genre écoute, fais une émission, s'il y a des gens qui viennent et qui font des trucs drôles, ok, mais que ce soit pas le point focal du truc, en mode genre 8 sur 10 7 sur 10 noté par Jean Benguigui, tu vois, genre on a rien à branler quoi.
Ouais, c'est vrai que être noté par un mec à la base qui connaît rien du tout au stand-up, qui connaît rien à l'humour.
Bah ouais, c'est ça.
Et qui a une carrière, qui n'a pas une carrière de fou, et c'est lui qui vient te juger en disant c'est de la merde ce que tu fais. Mec, ça fait 20 ans que tu fais de la merde à l'idée, personne ne te dit rien, quoi, tu vois.
Et il reçoit son salaire à chaque fois. Mais ça, c'est le gros truc des festivals, tu sais, quand t'as genre le charcutier du coin qui est dans le jury.
Ah bah, t'sais,
il est là, il dit Kevin, je trouve que tu parlais pas assez de cervelas. Ah non, mec,
c'est exactement ça, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment lui qui te remet le prix à la fin, quoi. C'est ça. Genre, c'est le mec du jury, quoi. C'est lui qui dit j'ai décidé, c'était toi.
Ça, ouais.
Oh, merci.
Merci. Ouais, ouais.
J'ai fait rire le chef de chez Afflelou, super.
Et c'est lui en plus qui dit à côté prends-moi le numéro si t'as besoin des conseils.
Ouais, oh, ça c'est incroyable. Mais t'imagines le. Mais j'adorerais avoir cet ego-là, quoi. C'est-à-dire d'aller voir une discipline que je connais pas et de dire genre, hey, l'architecte, là, ton building, il est... Si t'as des demandes à me faire pour le prochain gratte-ciel,
et d'un autre côté, quand t'es dans un stade de foot, clairement, t'oublies que t'es une grosse brêle.
J'avoue.
Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, oui, oui. Et toi, qu'est-ce que ça, tu ferais, toi?
Passe-lui la balle, dépêche-toi.
C'est vrai que c'est et c'est les mêmes en fait.
Ça, c'est vrai qu'en sport, il y a zéro respect de zéro sportif en fait. On est là genre ouais. On ferait mieux. Mais attends, Tim Ambrou, il m'a dit un truc trop marrant parce que quand j'ai dit que vous veniez au podcast, il était là genre ah mais c'est parfait parce que Charlie Niobe il fait du MMA et Kevin il se fait racketter souvent. Donc attends.
Crois-moi, en termes de clé de bras, on me sous-estime.
Mais que justement, tu sais, quand on regarde des combats, tu sais, on se sent plus, on est là genre, mais enfin, mais il fallait lui mettre son genou au-dessus du truc, tu sais. Alors qu'en vrai, mec, calme-toi.
Ouais. Ouais,
t'aurais pris le premier coup, tu serais à l'hosto déjà.
Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup... moi, j'en pratique depuis longtemps, en fait, tu vois. Et j'ai commencé même les sports de combat avant le stand-up. Je commençais par la boxe anglaise. Après, j'ai fait la boxe thaï. En gros, j'ai une famille de sportifs. Ma mère, elle est ceinture noire d'aïkido.
Ah ouais?
Ah, donc du coup, tu.
Aïkido, c'est avec un bâton?
Non, ouais, l'aïkido, non, tu fais des prises ou tu utilises.
C'est des prises, c'est chef défense. Tu utilises la force de l'autre pour.
Ok, d'accord.
Pour la soumettre et faire.
C'est quoi le truc avec un bâton?
C'est le judo, ça s'appelle. Le judo, c'est tu utilises un bâton pour contrer les sabres.
Ah, ok,
les
putain, dans ma tête, c'était l'aïkido.
J'ai fait les deux.
Mais ma mère était ceinture noire, donc du coup, j'étais obligé. J'avais mes oncles, j'avais un tonton qui était ceinture noire, deuxième dan de karaté, et j'étais obligé de me lancer dans le sport de combat.
Pour te défendre, quoi.
Bah ouais,
pour pas te faire frapper à la maison.
Parce que déjà, quand t'as une mère qui est ceinture noire, tu doutes bien que quand elle arrive.
À la table de famille, c'est genre fais-nous un kata, sinon t'as pas de dessert.
Bah, le grand écart est obligé. Il est obligatoire à la maison.
Ah, c'est énorme.
Putain. Ah ouais, on te disait, ouais, faut faire le grand écart, c'est important. Et du coup, bah, je me suis commencé à m'intéresser au karaté. Je m'ennuyais. Après, bah, je voulais un peu plus de.
En vrai, t'aurais pu faire cheerleader, en vrai. Le grand écart. Mais non, mais T'aurais pu choisir une autre voix quelque part.
Ouais.
Ben, pourquoi pas, écoute.
Ça aurait été énorme tard, hein. Que tu commences les... que tu commences les sports de combat, mais après le stand-up, genre en mode non, mais il faut que je me défende contre les gens du public.
Quand des gens, disent... quand des gens qui rigolent pas. Je les attends tous à la sortie. Comment ça, tu rigoles pas, toi? C'est quoi ton problème? Tu vois,
t'as déjà fait des combats?
Ouais, j'ai fait des combats. Je fais des compètes en amateur et pro.
Et combien là?
En amateur, je suis à 32 combats en amateur.
Putain, quand même!
Et 32 combats amateurs.
Et pour combien de victoires?
Je suis à 27 victoires.
Pro là.
J'ai
et pro
deux,
du coup?
J'ai deux matchs nuls et trois défaites. Deux défaites ou trois, je crois. Donc ça, c'est en soumission. Okay.
Putain.
Mais attends, parce que le MMA, parce que tu sais, en France, il n'y a pas le droit, c'est ça?
Si, il y a le droit maintenant.
Non, ah, c'est
avant,
maintenant,
c'est avant, il n'y a pas le droit. En fait, moi, c'était mes combats amateurs. Il y avait boxe thaï, il y avait aussi des combats de MMA, mais c'était pas légalisé.
Ah, oui, ouais.
Si tu devais aller combattre un petit peu en la frontière,
ouais.
En Belgique, par exemple, on pouvait combattre, tu vois.
Okay. En Andorre et en Belgique, c'est genre des trucs.
Ouais, et du coup, j'ai fait ça, et après, quelques combats pro.
Okay.
Des combats pro, carrément?
Combats pro, ouais. J'ai eu des combats pro. Là, je devais y aller, là. En plus, il n'y a pas longtemps, on m'a approché. On m'a dit, mais j'arrive, reviens. J'ai tellement de potes qui sont champions du monde aujourd'hui, qui sont 13 champions du monde de Glory. Je connais beaucoup.
Tes potes avec Cyril...
Cédric Doumbé.
Ah ouais, ouais? Cédric Doumbé, ouais.
Ouais, c'est un très, très bon pote. Ouais.
Ah ouais,
putain.
Ouais.
Et là, maintenant, il va se lancer
à l'UFC,
ouais. L'UFC, il a signé avec l'UFC. Et donc voilà, mais c'est magnifique. Tu vois.
Ligue 1
de... Normalement, je reprends bientôt. Tu vois, j'ai quelques petites blessures, mais je reprends les combats bientôt, tu vois, en pro. Tu vois, que ce soit MMA ou en boxe thaï.
Trop marrant parce que moi, je connais des gars de MMA aux États-Unis qui se sont mis au stand-up. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es le gars qui fait du stand-up.
Joe Rogan.
Joe Rogan, lui...
Joe Rogan, il a deux Netflix.
Il a commencé, mais il est passionné.
Il faisait du taekwondo.
Il a fait taekwondo.
Mais il est devenu effectivement fan. Mais lui, il est juste commentateur. Mais Brandon Schaub, je sais pas si tu connais lui, il faisait du MMA. Et il fait du stand-up maintenant. Parce que justement, c'est un pote de Joe Rogan, etc. Et les gars lui ont dit, mais en fait, mec, t'es drôle aussi. Maintenant qu'il a arrêté sa carrière de MMA, bah il prend le micro et en fait le gars il est drôle quoi, il fait
c'est
des
cool.
spectacles.
Non, terrible ça.
C'est bon, ça. Ouais. Et sauf que même Cédric Doumbé, qui il adore l'humour, bah tu penses que t'as vu quand même comment il clash pas mal.
Il l'ouvre beaucoup.
Il l'ouvre beaucoup. Et Doumbé là il veut faire du stand-up.
Ça m'étonne pas.
Il a commencé un petit peu, il a fait quelques petites scènes, mais il veut vraiment faire du stand-up. Là il a signé avec l'UFC.
Il va pas avoir le temps, laisse tomber.
Il va devoir trouver une team, parce que c'est important quand tu commences à te lancer dans une structure comme l'UFC, il te faut une équipe autour.
Ouais.
Tu peux
un gym.
Mais tu deviens une entreprise,
à
toi tout seul, il y a les gens, ils bossent pour...
Quand tu vois même les Khabib, mec, c'est l'un des meilleurs, ouais. Il y en a plusieurs, mais ils avaient tous des gyms, ils avaient une équipe autour d'eux. Là, Doumbé, ce qu'il veut, c'est parce que là, il a fait son premier combat, face à McGregor de Wish, là, qu'ils ont trouvé, je sais pas où, là, qui a quelques combats. Attention, le mec, c'est un warrior. Mais Doumbé, il a dit, je vais te mettre KO au premier round. Lui, c'est un mec, quand il parle, il est obligé de faire ça.
En fait, ce qu'il a pour lui, c'est ça, parce que... Enfin, il parle bien anglais, oui.
Oui,
parfait. Ouais, parce que, en fait, aux États-Unis, ce qui compte aussi vachement, c'est comment tu roastes l'autre personne à l'avance et tout. Genre, Conor McGregor, en vrai... C'est ça qui a fait qu'il est devenu Conor McGregor. C'est juste que le gars, il se foutait de la gueule trop bien des autres gars. Donc, tu as envie de le voir à l'image. Et du coup, tu as envie de le voir au prochain combat. Alors que peut-être parfois, en vrai, ça aurait pas été le meilleur combat. Tu vois ce que je veux dire à voir. Mais typiquement, lui, s'il te dit je fais un spectacle où je clash du monde, tu vas le voir. Parce qu'en fait,
ça
va être trop drôle.
Mais lui, il peut même remplir des salles. Il leur dit, je vais juste chanter. Lui, il peut juste remplir une salle avec rien, lui. Hein.
Mon fils fera du piano, je serai à côté en train de manger les chips.
Je vais couper une tomate à l'O2 Arena, ça va pas durer longtemps, mais il va le remplir.
Oh, Kevin, il est là, il écrit ses voix. Ah oui, la créativité est meilleure à 7h du matin.
Il est en train de couper ses tomates détente.
Ah oui.
Et le public paye des places parce qu'ils veulent le voir.
Mais bien sûr, ouais.
Parce que, comme t'as dit, c'est un mec, c'est vrai qu'il a quand même propulsé les MMA.
Sans balancer de nom. Mais il y en a beaucoup même qui font ça de manière générale En France où tu deviens célèbre dans quelque chose et tu te rends compte que remplir des salles, ça fait du blé aussi.
Ouais.
Et tu te retrouves à faire humoriste alors qu'à la base, c'était pas du tout.
Non, mais je vais balancer les noms, je pense. Arthur, Coé.
Julien Courbet.
Julien Courbet ?
D'ailleurs.
Lui, oui.
Eux, ils ont pas démarré dans le One Man Show ? Et ensuite, ils ont fait de la télé ?
Arthur, il a commencé par la télé.
Ça m'étonnerait même pas qu'ils aient fait. Tu sais, comme Hanouna qui a fait du One Man Show avant de faire de la télé.
Avant de faire de la télé, oui. Mais. Non, après ils vont me dire, ça se trouve, oui, à l'époque j'avais fait le café Oscar, tu sais, mais au tout début, genre, peut-être, mais je sais pas, ouais, non. Michel Drucker, il l'a fait. Il a fait une tournée, aussi. Michel Drucker, à base de genre, je vais vous raconter mes anecdotes de mes 60 ans de carrière,
là,
etc.
Il a fait ça dans tous les cimetières de France, alors.
mais ça, d'un autre côté, c'est plus louable quand même.
Oui.
Parce qu'il y va pas en mode stand-up, je vais vous faire marrer.
Vrai, raison, ouais.
Il dit, ça va durer 2h30 où je vous raconte tous les gens que j'ai rencontrés depuis le début de ma carrière.
Ouais.
Et tu sais, c'est intéressant d'écouter un papy parler de tout.
Quelque part, c'est un spectacle en fait. Oui,
mais oui, c'est ça. Lui, par contre, il est pas un seul en scène plutôt à la limite.
Ouais, excuse-moi, des papys comme lui, j'en reçois tous les dimanches à la maison. Voilà, il vient
des papys, ça se trouve, qu'on parlait à Elvis. Un papy qui a parlé à Elvis.
Putain, Michel Drucker, il a parlé à Elvis.
Bah, j'en sais rien, je te dis, c'est au pif là. J'essayais de remonter les années, je me dis, il a dû démarrer en. Dans les années 60, il a démarré Michel Drucker.
Peut-être, ouais, ça se trouve, ouais.
Je pense, s'il a démarré dans les années 60.
Putain, tellement vieux qu'on.
Possible qu'il ait croisé Elvis.
Il y a un truc sur Netflix de gars que j'aime bien, des Américains, Steve Martin et Martin Short. Donc, c'est des mecs de stand-up américain, mais du spectacle américain. Mais là, ils ont quasi 80 ans. Et là, ils sont rejoints tous les deux parce qu'ils sont potes depuis longtemps, ils ont fait des films et tout ça. Ils se sont dit, on va faire un spectacle, pareil, aussi tourné, où ça va mêler vannes. Et aussi, on vous raconte des anecdotes qu'on a vécues tous les deux, mais avec d'autres stars, etc. Donc tu dis, ah, c'est pas mal comme.
Et ça, c'est.
Et c'est sur Netflix pour le coup. Hein.
Ah ouais.
Ils ont capté le truc dans un super.
Putain, mais attends, je vais noter ça.
Ouais. Et je me dis, ah, mais c'est pas mal d'ouvrir la porte à des trucs hybrides où il y a des gens où c'est quasi un podcast sur scène, tu vois. Aussi, c'est-à-dire que là-bas, ils ont le showmanship du truc. C'est-à-dire que les gens, dès qu'ils sont sur scène, ils savent pas mettre de temps mort, ils savent pas.
Ouais, c'est ça.
Et en France, je sais pas, s'il y a pas une bonne mise en scène et que les gens ils ont pas de l'énergie très vite, qu'est-ce que tu vas recevoir en vrai ?
Mais moi, il y a un truc, mais c'est vraiment là j'ai remarqué que vraiment les Américains, contrairement à nous, ils sont pas dans le délire de mise en scène, de je sais pas quoi, de il faut que je pose ici, faut que je prenne ma bouteille d'eau en ce moment-là, il faut que je regarde. Faut que je regarde la régie à un moment donné, un petit signal, il fait la lumière, ils prennent un micro, ils posent le mic, ils s'en vont. Peu importe, des fois je vois, ils n'ont même pas de transition, le mec il enchaîne, tu te dis ah ouais, nous ici en France, on va te reprocher de ne pas avoir un fil conducteur.
Ouais.
Alors que eux, des fois, ils ont pas besoin de fil conducteur, quoi. Mais.
Ils en ont un, mais il est bien plus précis. Ouais, il est bien plus précis et caché.
Tu vois, à un moment donné, il va enchaîner une vanne, il enchaîne un thème, et d'un coup, il fait. C'est pas énorme ce qui s'est passé l'autre jour après et nous on va dire, mais t'as un producteur ou un metteur en scène dans le stand-up français va te dire oh, mais par contre là tu pas du coq à l'âne,
oui
dire, mais non, mais j'ai
alors qu'en fait parfois ça peut être justement plus drôle parce que tu passes du coq à l'âne, mais que non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté en France où genre bon, maintenant écoute, tu as ton texte, tu sais comment le jouer, maintenant il faut qu'on pense au projecteur, où est-ce qu'on va mettre un moment une lumière, tu sais, sur un truc genre oui, ou alors c'est pas moi quoi. Je vais pas le faire peut-être.
Oui, c'est ça en fait, c'est que ça nous formate. Après, du coup, tu sais pas si c'est toi, comme tu as dit. Sur scène, tu regardes le projecteur, au lieu de checker le public. T'es là, alors du coup, il m'a dit projecteur gauche, à droite, attends, c'est lequel ? Ah, c'est celui-là, il faut que je regarde. À un moment donné, au bout de la cinquième minute, il faut que je tourne la tête à droite parce que c'est important. Mais non, c'est pas toi en fait. Parce que tu sais pas ce qui va se passer dans la salle. Il peut se passer des choses. Nous, on fait du stand-up, tu vois. On a un public de fois qui y en a un qui peut se lever, il fait ce qu'il veut, il y en a une qui fait tomber un truc, tu veux pas non plus dire, c'est pas grave, je regarde quand même le projecteur gauche, c'était prévu.
Ça, je pense que c'est parce que, tu sais, il y a ce truc, très souvent tu peux entendre ça justement de producteurs, de gens qui ont des théâtres, c'est pas carré, tu vois ce que je veux dire, c'est genre, c'est pas un truc. Alors qu'en fait, c'est pas parce que tu peux avoir une interaction singulière avec le public que t'as là, que c'est pas carré quand même ce que tu fais. Ce que les gens savent pas, c'est que justement tous les Netflix qu'on regarde des Américains, ils ont tourné en général 3 fois au même endroit, ils ont cuté les choses, mais qu'à chaque fois, ils ont pu avoir une interaction vraie avec le public, avec le gars du second rang du jeudi. Et c'est ça qui a fait que ça a donné de l'énergie à la salle et qu'ils ont rigolé plus fort aux vannes d'après. Bien sûr, tu le coupes parce que toi, t'es là, t'es chez toi dans ton canapé, j'en ai rien à branler que machin. Tu vois, il soit un ingénieur dans le Minnesota, tu vois, enfin bref. Mais que quand même, le stand-up, c'est quand même ça. C'est quand même dire aux gens
et à la fois, des choses. J'étais allé voir Fressiné une fois, je sais plus où. Il avait fait full une heure et quart, sans aucune interaction, en filant son truc. Du papier à musique et les gens étaient morts de rire du début à la fin. Quoi. Ouais. Pas une interaction. Quoi.
Bah, tu vois, comme tu dis, il y a des gens comme ça. Roman, par exemple, c'est vrai que c'est pas un mec qui va qui adore l'impro. C'est pas un mec non plus qui va provoquer l'impro, tu vois. Il va rester dans son personnage. Est-ce que tu vois qu'il est en train de lui dire excuse-moi, sauf de poulpe, c'est bon ça, le poulpe, il ouvre des trucs.
Mais c'est sûr. Non, mais comme quoi,
je
pense qu'il y a des trucs sur Netflix où vraiment il rajoute pas forcément, il cut pas les bons moments au truc. Je pense que c'est fidèle. Je pense que c'est.
Moi, je veux dire.
Je pense qu'il cut, il a pas tort, franchement.
Ah non, mais il cut, c'est sûr. Mais par contre, est-ce que.
C'est forcé.
Il y a tant d'interactions que ça? Je pense pas forcément.
Non, mais pas forcément. C'est-à-dire que moi, je dis ça, attention, moi, je fais zéro interaction pendant mon spectacle, j'ai pas le temps de parler aux gens, tu vois. Mais je veux juste défendre les gens qui le font, qu'on leur dise pas c'est pas carré. La façon de chacun de gérer l'énergie du public et etc.
Et après ça dépend après si c'est une capta ou pas, tu vois, genre parce que Nico par exemple, Nico Fabien Quino maintenant qui
dis-lui son vrai nom, ne le dead name pas,
et qui, lui il kiffe les interactions de ouf et bah, tu peux pas t'empêcher que quand le producteur il te demande ton texte pour savoir ce que tu vas jouer, tu lui envoies un papier avec écrit improvisation dessus, il va dire t'es gentil mais c'est France 4 mon grand.
Oui, j'avoue, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'en plus, et je pense qu'en plus je dis ça, mais les Américains ils sont pires quand tu fais une télé, tu sais, genre si tu fais Jimmy Fallon, je sais pas quoi, ils veulent avoir au mot près ce que tu vas dire parce qu'ils ont besoin de savoir les pubs qui vont mettre après, tu vois, que tu t'es pas dit de la merde sur telle ou telle chose.
Et c'est pourquoi maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de... Tu sais, quand on fait des émissions comme Génération Paname et tout, on dit à la fin, il faut une chute, quoi. Parce que c'était tout pour moi, merci beaucoup.
Oui, non, bien sûr.
Voilà, je pense que c'est déjà... ça date, c'est le premier stand-up, ça, tu vois.
Ouais.
Voilà, on rend hommage, merci, tu vois. On passe à autre chose.
Oui.
Mais est-ce que si tout le monde commence à dire bon allez j'ai pas de chute, c'était tout pour moi. Merci
oui non
beaucoup.
Ça c'est non mais là t'es juste con quoi.
Ça c'est le premier JCC quoi. Ça c'est les premiers jamais comédie club.
C'est vrai ça se finissait comme
quasiment
ça.
Quasiment tout le monde.
C'est vrai.
C'était tout pour moi. Merci beaucoup.
Ouais.
Toi tu dis
je me souviens pas.
Ah oui, t'as même plus le droit de le dire dans la rue. Hein. c'était tout pour moi. Non c'est mort. Mais prends un micro dis-le. Parce que tous les stand-upers le faisaient. Et mais le problème, c'est que comme il y a la vague Comedy Club, il y en a plein qui disaient ça après dans plusieurs salles. C'était tout pour moi, merci beaucoup.
Kevin, il dit rien parce qu'il dit ça tout le temps, en fait, c'est ça.
Je vais m'arrêter là-dessus, merci beaucoup de m'avoir écouté.
Ouais, bah,
gardez vos applaudissements pour Germaine.
Je vais m'arrêter là-dessus, ouais. Ok, ça passe.
Moi, je dis ça suffit.
J'en
ai marre, tu sais. Ça suffit. Et, tu sais, tu mets le micro comme ça quand tu t'es énervé.
Allez.
Moi, j'ai vu des collègues, des fois, quand c'est dur, je pense que t'as même pas envie d'arrêter. T'as envie qu'on t'arrête.
Oui.
T'as envie que...
Qu'il y a un bruit au fond de la salle. C'est genre, oh, quoi, mon Dieu, non.
Comment ça? Non, ça va. Fais du repos prochain, tu parles après.
Mais ce serait bien de...
Tu laisses ton téléphone et tout, tu voulais t'enregistrer, tu
ce serait bien de finir réellement, mais en fonction de ce que tu ressens vraiment. Tu sais, t'es là, tu fais... Bon, je m'ennuie là, en fait, donc j'ai envie de partir de scène. Allez, au revoir.
Mais rien ne t'en empêche,
mais
en vrai.
Mais c'est vrai, mais t'as raison. Et ce serait en vrai, ce serait peut-être encore plus drôle.
Mais ça arrive souvent, en vrai. On se rend pas compte, mais ça arrive souvent. Hein.
Ouais, de dire la vérité, c'est
possible. Ah, mais c'est vraiment, il y en a beaucoup que tu les vois faire. Bon, ben voilà. Je crois que c'est là-dessus que je me casse.
Tu sais que le fameux, ben voilà.
Ouais, le fameux voilà, quoi.
C'est vraiment le mec qui fait une vanne, ça prend pas, il fait voilà.
Oui, même quand ça marche bien, ça m'est déjà arrivé d'en voir faire Bon, bah, je crois que tu sais quoi, je vais m'arrêter là parce que je n'arriverai pas à être plus drôle que
oui,
ça.
Oui, oui. Cela dit, c'est vrai que c'est sincère de dire ça.
Tu veux pas prendre le risque, non, non, je pourrais pas être plus drôle que ça.
Parce que des fois, il y a des impros comme ça qui sortent. C'est tellement drôle, tu te dis, mais pourquoi je vais continuer à... Tu sais que ce que je viens de faire, j'ai tellement retourné à la salle, mais je m'arrête là, quoi. Je balance le micro, hop, je me casse.
Tu sais, t'es un connard, tu fais genre du bruit pour le suivant. Bonne chance pour lui de faire mieux que moi.
Je vous souhaite beaucoup de courage.
Ça vous est arrivé d'avoir des gens, tu sais, où, je sais pas, vous aviez joué avec eux et vous les trouviez pas drôles. Et tu sais, genre, tu les revois un an après, tu fais, ça y est, il est devenu drôle. Tu vois ce que j'ai ou pas?
Ouais, c'est vrai.
Ouais,
parce que j'avais écouté ça à l'époque. Je sais pas si j'avais commencé le stand-up, j'avais écouté ça de podcasteurs américains, tu sais, qui parlaient d'un autre humoriste, mais connu, qui était connu du coup. Mais il disait genre, ah, je me souviens. À l'époque, on se foutait de la gueule de ce gars. 3 mois après, je l'ai revu et ils se sont appelés ensemble. Ils ont dit, hey, tu sais pas qui est devenu drôle? Hannibal Buress est devenu drôle. Il parlait d'Hannibal Buress en plus.
Ah ouais.
Mais c'est-à-dire que eux, ils connaissaient. Ouais, ouais. C'est pour te dire, c'était Pete Holmes et Kumail Nanjiani qui parlaient ensemble et que, genre, en vrai, Hannibal Buress, bah, il était pas apparemment drôle au début, tu vois. Et alors qu'ils sont tous potes hein, maintenant, tu vois. Et qu'à un moment, ils ont fait, hey, tu sais pas les news de Chicago là, qui c'est qui est devenu drôle? Hannibal.
Tu sais quoi, bah ça.
Oh là là.
Bah là, en gros, ce qu'ils disent, bah, c'est un truc, c'est le basique. J'ai fait le Comedy Club, on m'invite là-bas à ma toute première scène. Moi, là-bas, je connaissais Claudia Tagbo. Ouais. Et du coup, elle parle de moi au directeur, comme ça, Jean-Michel Joyot. Charlie, c'est un comédien. Je dis non. Fais non, prends son numéro. Il me dit, donne-moi ton numéro de téléphone. J'étais là, non, putain, non. Je dis, non. Il me dit, donne. Il prend mon numéro. Je rentre chez moi. 2 semaines après, il m'envoie un message. T'es convié pour venir faire la Deb Jam.
Oh.
Je suis waouh. Dans ma tête, je me dis, mais attends, non, mais j'ai pas écrit de sketch, j'ai rien. Je savais pas comment il fallait écrire un sketch. Moi, à la base, c'était juste un mec qui faisait des blagues comme ça. Claudia, elle rigolait. Il y avait des fois Noum Diawara, on se captait. Mais je me suis dit, non. Et il m'appelle, il me dit, c'est bon pour le Comedy Club. Je me suis dit, mais si je dis non au Comedy Club, c'est une insulte.
Ouais.
Bon, vas-y, j'y vais. Écoute, je gratte un truc comme ça un jour avant le show. J'arrive. Je monte sur scène. Le stress que j'ai. J'avais dans ma poche le téléphone rose de ma cousine. Je monte sur scène, il sonne sur scène. Déjà à quel point tu dis, mais tout tombe, tout s'accumule. Je sors le téléphone, il est rose. Les gens, ils se marrent.
Ah ouais.
J'ai dit, merde.
Donc c'était bénef de
ouais,
ouf.
Ouais, ce téléphone t'a sauvé. Hein.
Déjà, il me sauve au début. Après, je fais mine de décrocher. Après, je pose, je fais, mais en fait, c'est ma famille. Ils ont appris, je joue jamais Comedy Club. Ah mais non, je reçois des appels, mais ils savent pas que je suis pas payé en fait. Voilà, si j'avais le fil des coca, je sais pas si je dis comme ça, si vous êtes pas au courant. Après les gens ils rigolent. Mais non, allez, c'est parti pour le texte. Silence.
Ah putain. Genre l'impro va bien et tout ce que t'as écrit avant, ça c'est horrible ça.
Mais j'ai un bide, frère, j'ai jamais eu un bide aussi horrible comme ça toute ma life. J'entendais les voitures klaxonner, frère. Alors on les entend pas là-bas. C'est vachement isolé. Et ce qui est marrant, c'est que t'as des potes dans la salle, t'as 3 poteaux qui sont venus te voir, qui te soutiennent et qui vont s'abaisser la tête parce qu'ils assument plus. Faut oh merde, putain, c'est chaud là.
Tourne la tête.
Il me regarde et me fiche. Putain.
Attends, mais ça veut dire que ta première scène, t'as bidé en fait.
J'ai bidé fort.
Mais comment tu trouves. Parce qu'en fait, moi, je vois très bien comment. Voilà, une première scène, moi, ma première scène, elle s'est bien passée. Et du coup, tu te dis genre, bon bah ouais. Bien sûr, j'étais fait pour ça, tu vois ce que je veux dire? Mais une première scène où tu bides, comment t'as trouvé la force de te dire, bah en fait, je réessaye quand même?
Écoute, pendant 6 mois, j'étais en dépression.
T'as pas refait de scène pendant 6 mois?
Pendant 6 mois, j'étais
en dépression. Bah ouais, en même temps, ça me paraît normal.
J'étais chez moi, je voulais avaler ma langue, j'étais là, à quel moment je vais mourir, quoi. Le pire, c'est de voir tes potes à la fin qui disent, c'est pas toi, c'est le public. Je dis, mais ils ont ri pour tout le monde.
Et vous trois, je vous ai vu, vous avez pas rigolé.
Et tu sais, ce qui est marrant, c'est la phrase que Noum Diawara m'avait sortie, putain, elle était incroyable. Elle m'a dit, écoute, moi aussi, quand je commençais, j'étais pas marrant. Merci, Noum.
Putain, il t'a dit là. Ouais. Il a pas
chaud. Genre, tu te prends une balle. Tu prends une balle à la tête, c'est pas grave, tire-moi dessus.
Et ça, c'était il y a combien de temps?
C'était en 2013, ça. De janvier, février 2013.
Il y a 8 ans.
Ouais.
Et là, t'es marrant depuis combien de temps, du coup?
Trop bon.
Tu vois, ça a commencé.
Et en fait, c'est que j'ai eu. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, mais. Comment on travaille des blagues, tu vois? Parce que après un beat pareil, tu sais, je rentre chez moi, Il y a même des gars qui me voient, ils font « T'es sûr que tu veux faire de ça ton métier ?» Je dis oh, « Ouais, pourquoi pas ?» Ouais, mais bon, je suis...
Mais c'est là que t'as vraiment travaillé, en fait. C'est ce que je veux dire. C'est comme, tu vois, les meilleures irrigations, elles sont faites par les gens qui vivent dans le désert. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il faut se prendre le traumatisme de quelque chose, donc d'un vide ou d'une sécheresse, telle que je viens de décrire, pour avoir la motivation de faire...
Tunnel, quoi.
De, ouais, en plus, je n'ai même pas l'image. C'est-à-dire qu'ils font des super belles irrigations là-bas.
Je parle du rendement, de l'efficacité, de comment tu détournes un flux, même si un film de rivière ou d'une nappe phréatique,
ouais,
va être le meilleur parce que bah, t'as peu d'eau, donc tu vas mieux l'utiliser, en fait. Et, alors que...
Mais qu'est-ce que t'en sais, ça? Ça se trouve, ils font n'importe quoi et c'est pour ça qu'ils ont... Ils ont
c'est
pas
pour
d'eau.
Ça qu'ils ont niqué l'Afrique.
Les gars, ils ont creusé n'importe où. Tout est allé.
La théorie de Kevin, c'est genre... Mais en fait, l'Afrique, elle a des déserts parce que vous êtes nuls en irrigation. Parce que normalement...
parce que vous avez creusé n'importe où. Ça ne va nulle part,
vous
votre histoire.
Vous avez détourné l'eau.
Ça fait combien de temps que vous faites ça?
Non, tu vois, en gros, pour te dire que c'est... oui, donc en fait, t'as ce côté où... Après, quand les gens te revoient quelques temps plus tard, après, ils font... Mais peut-être t'es marrant, parce que la preuve, je suis revenu. Et oui. quand je suis revenu, j'ai commencé à, du coup j'ai découvert c'était quoi faire du stand-up. Il fallait aller faire plusieurs scènes ouvertes. Du coup j'ai connu le Paname. J'ai commencé à faire quelques petites scènes petit à petit. Hop, je jouais, je voyais un petit peu. C'était un peu compliqué. Et donc un soir je me donne, il y a un festival. On me dit tiens le printemps du rire.
Ouais. Toulouse.
Bon j'y vais comme ça, tu vois, je vais tenter. Et je joue. Déjà ils rigolent. Tu sais que le texte, il y a zéro sens, mais il n'y a que des vannes. À la fin, j'ai Kalagan qui vient me voir et Fujil Kaibu. Ils me disent, écoute, franchement, tu as des très bonnes vannes, mais il faut une histoire, écrire un truc. Parce que là, ça va dans tous les sens. Ils me disent, écoute, écris-nous 10 minutes. Mais 10 minutes, on t'invite au Café Oscar. Et ce soir-là, ils me disent, il y a Fabrice Eboué, il y a Gérald Daran et Kev Adams, et il y aura toi en plus. Je dis, ah ouais, cool. Ils me disent, écoute, viens, tu passeras. Écrit.
Attends. Il y avait un plateau avec Gérald Daran, Kev Adams
et Fabrice Eboué. Au
Café Oscar.
Et on l'invite.
En 2013, ça?
En 2013, ouais.
Ah ouais, putain, il y avait. Okay,
alors
il y avait
que ça. Juste 6 mois avant.
Gérald Daran et.
J'étais en dépression. Et de là, ils me disent, bah, tu viendras jouer. Et je dis, mec, je bouge. Je dis, cool, bien sûr, je viens. J'écris tout ça. Je donne à Kalagan. Il se met derrière. Je passe en deux. Et mec. C'est la première fois que je joue, j'ai des rires, des applaudissements. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça?
Ouais.
Et tu sais quoi? 2 mois après, j'ai le Comedy Club, il m'envoie pour la Def Jam. Je retourne à Def Jam, mais j'ai tellement la rage.
Ouais.
Tellement la rage que je donne tout et je retourne la salle. Et t'as le directeur, Lapin, le DA qui vient me voir. Il dit, écoute, Charlie, je peux te parler à la fin. J'ai dit, ah, Walidia, mais c'est qui lui? Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a parlé? Il m'a dit, ouais. J'ai dit, écoute, il me dit, si t'as parlé, c'est bon signe. J'ai dit, ah ouais? Je dis, t'inquiète pas, il va te voir après. Et après, il me propose de faire l'émission. Tu vois.
Trop bien.
C'est incroyable. Comme ça, je pars là-bas, je pars de... je me t'ai tiré une balle. Hein.
C'est... Mais ce qui est incroyable, c'est que tu sais, en fait, tu t'es juste rendu compte qu'en travaillant, ça paye.
C'est tout.
Mais c'est parfois, tu sais, on est tellement éloigné parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut être un génie, tu sais. Dès qu'on est dans l'art, c'est non, mec, t'es né comme ça ou pas. Ouais. Alors en fait, non, désolé. Ouais. Il faut bosser en fait, il faut être à la maison et il faut tester des trucs et tout.
C'est vrai.
Mais...
Parce que beaucoup pensaient, moi je pensais le stand-up c'était genre t'écrivais des blagues, tu montais sur scène, après c'était drôle. Moi je pensais ça en fait. Ou limite, des fois je me disais, mais en regardant des fois quelques plateaux, je me disais, bon, les mecs ils écrivaient pas.
Oui,
les mecs, ils montent sur scène,
ils arrivent.
Ils sont trop à l'aise, tu vois, ils sont trop à l'aise, c'est pas écrit.
Il y a une lumière qui descend du ciel et ça leur donne les vannes comme ça.
Comme t'as dit, voilà, tu dis le mec, tu dis ce mec-là est juste drôle en fait, c'est tout. Alors que non, le mec il a travaillé. C'est vraiment un boulot. D'où j'ai compris après que, mais en fait, ouais, c'est ça en fait, c'est aller jouer à gauche à droite. D'où j'en parlais du fait que quand un humoriste est frustré, il va se plaindre aujourd'hui. Il n'a pas le droit de se plaindre aujourd'hui parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de comédie club. Aujourd'hui, il y a.
Oui, je sais ce que tu veux dire. Oui, c'est
genre, tu peux jouer partout, on te boycotte là-bas, on veut pas de toi. Va bosser, tu verras que ce lieu va te rappeler plus tard. Ouais. Quand tu seras meilleur, c'est tout.
On peut parler du... Vous avez entendu parler de ce qui se passe au printemps du rire? Vous avez entendu le truc?
Non.
Qu'en fait, le printemps du rire, l'orga, a envoyé des mails aux candidats où ils ont fait une erreur, ils ont attaché un fichier Excel où il y avait la liste de tous les candidats, mais avec leurs commentaires internes à tous
mais
les
non,
trucs.
On peut le retrouver, ça.
Oui, je l'ai, si tu veux, je te
le mais
genre,
mais
les
c'est
commentaires...
magique.
En fait, à la base, je voulais même faire une vidéo, je voulais appeler de quelques comiques qui étaient dans cette liste pour qu'ils viennent lire eux-mêmes
génial.
Les commentaires qu'il y a, genre en mode pas drôle, tu sais, ou en mode genre, parfois, il y a marqué « non
». Waouh.
Ou truc genre.
T'as un screen de
j'ai
ça, je veux dire.
J'ai
oh, c'est super.
Mais non, mais a... parce qu'il y a des trucs en vrai, c'est.
Tu
c'est...
montres après. Hein.
Ouais, de ouf. Mais c'est marqué des trucs trop bizarres parce que parfois, parfois t'as un vrai truc de et je vois comment les gens se disent ça parce que si tu gères
et la violence.
Un festival de médecins, mais il y a des trucs aussi genre maghrébine.
Non.
Non, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Juif, ok.
Oui, je, ouais, genre, en mode, genre, ça, et parfois, ils sont juste pas d'accord avec ce que dit la personne. Tu vois ce que je... Et genre, et t'es là, genre, non, non, mais on veut savoir si c'est drôle ou pas, en fait, on veut pas savoir si t'es d'accord avec le,
mais c'est,
ce,
c'est
l'écologie du truc. Bah oui, c'est scandaleux.
C'est scandaleux. Mais, et du coup, ils ont fermé, j'imagine. Ils ont arrêté.
Non, ils ont pas du tout fermé, ça s'est passé d'ailleurs. Je crois qu'ils ont envoyé un mail d'excuses. Je sais pas du tout s'ils ont envoyé un mail d'excuses.
C'est,
t'étais dedans
pour les prochains printemps d'honneur.
Parce qu'en vrai, c'est tous les gens qui ont dit je veux participer au festival. Hein, donc, tout le monde, enfin, il y avait plein de noms.
Qui organise ça?
C'est des gars à Toulouse, en vrai. Et en vrai, enfin, désolé, enfin, je m'en fous, je veux dire. En vrai, c'est un peu des peintres quand même. Parce que. Nous, je me souviens, quand on avait la Toulouse Comedy Night, du coup, à Toulouse, ils étaient même venus nous voir pour faire un partenariat avec notre plateau et le Printemps du Rire, mais genre pour qu'on s'occupe de présenter, quoi, de présenter les trucs. Sauf qu'on était là, nous, bah, ouais, ok, combien vous nous payez, quoi? Parce qu'on avait chacun nos spectacles et tout. Et en fait, ils voulaient clairement du bénévolat, quoi. Tout ce que je veux dire, c'était que à base de... Ils ont fait une réunion avec nous pendant une heure pour nous dire que on sera pas payé. Alors qu'à la base, nous, on était là depuis le début, on disait...
Et puis, c'est pas comme s'ils remplissaient une salle de 3000 personnes en clôture de festival, non? C'est pas ça?
Ouais. À Paris, déjà, parce que moi, quand je l'ai fait, c'était...
Ah oui, mais les baisses de l'humour, là. C'est pas les baisses de l'humour où tu gagnes
ça,
et tu te retrouves.
Oui, c'est ça. Et en fait, oui...
Mais les baisses de l'humour, c'est moi, Jay, qui faisait ça, non?
Oui, bah, c'était lui. C'était lui qui était... Mais clairement, lui, ce gars, il s'est fait attaquer en juste par quelques humains, c'est parce qu'il leur devait de la thune. Et...
Ah ouais?
Du coup, a posteriori, maintenant que tu le dis, je crois que c'était lui qui était venu nous voir. Et c'est pour ça qu'il voulait pas nous payer, en fait.
Ah,
tu vois, c'est que le gars...
Ah, d'accord.
Parce que là,
ok. Histoire,
apparemment, il s'est radicalisé, là. Donc, plus de nouvelles.
C'est pas... Mais c'est radicalisé avec l'argent de quelques humoristes, je pense.
Il va se manger un jour dans un théâtre.
C'est radicalisé à Cancun, le gars.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est ouf, ce milieu où très facilement, en fait, tu peux te poser comme quelqu'un d'un peu sérieux, mais parce que juste tu organises des choses, tu vois. Mais après, c'est un travail, hein, il faut le faire, il faut bien le faire. Mais où tu peux arnaquer clairement des... Tu vois, genre en vrai, Kevin Robin, finalement, je vais lui donner 20 euros quoi, pour présenter le truc. Et puis tu vas te dire, bon, merde, maintenant que j'ai dit oui, parce que je croyais que j'allais être bien payé. tu te fais avoir par le truc.
Non, ouais, mais complètement.
Moi, je suis désolé, hein, moi, tu vas pas, je viens, tu me dis 20 balles, je me fais des métaux.
Oui, non, mais bien
donc
sûr.
C'est, mais il y a le public, là, c'est bien, mais salut, au revoir.
Mais je vois bien comme des gens qui... Enfin, parce que moi, tu vois, en étant dentiste à la base, je suis un gars très... Enfin, genre, je suis adulte avant d'avoir fait du stand-up. Donc, il y a un petit côté, genre, je vais lire, en fait, moi, le contrat. Ça, je vais lire jusqu'à la fin. Donc, il y a ça. Mais je comprends très bien comme si t'as 21 ans, tu viens juste de... Tu vois, tu viens juste de finir... une licence de quelque chose et qu'on te dit genre ouais viens on va faire ça mais t'inquiète le contrat c'est pour après bah tu te fais niquer quoi.
Va y avoir 800 personnes et tu te retrouves à la foire de je sais pas où là, à passer après un show de coiffure.
Oui.
Mon dieu mais ça nous est arrivé avec Edgar et Omar Mefta.
Oh,
putain. On avait été jouer je sais plus c'était un plan on devait jouer pour c'était pour le Téléthon. Dans une grande, la plus grande ville de Vendée, alors je sais pas c'est laquelle, mais c'était grand
mais
quand même.
Ils en ont une apparemment, une ville.
Mon gars, c'est pas Montaigu, je sais plus c'était quoi, mais il y avait un hangar énorme, quoi, la taille d'un terrain de foot. Quoi. Et on rentre, et en fait, il y avait une grande scène au fond.
Ah non.
Et sauf que nous, on arrive, il est 19h30, et c'était l'hiver, donc déjà les gens commencent à partir, il commence à y avoir de moins en moins de monde. Et puis plus ça va, plus ils avaient dit bon vous allez passer au maquillage parce que vous allez passer sur TV Vendée et tout, on était trop chaud. À un moment donné, elle vient, elle fait, bon, en fait, vous serez pas maquillé, t'es vendé, les gars, ils remballent tout, donc vous passerez plus dessus. On fait, ok, pas de soucis. Et là, on voit un mec arriver avec son cheval. Ouais, un mec qui arrive avec son cheval. Alors déjà, faut savoir que c'est, donc, la salle est immense. La scène, elle fait 1m60 de haut, elle est plus grande que toi. Et il y a 4 rangs de chaises de camping blanches là.
4 rangs.
Ouais, les chaises de snack.
Dans le hangar du terrain de
football. Ouais. 4 rangs, donc ça fait 50 places assises, on va dire, un truc comme ça. Et là, il y a un mec qui arrive avec son cheval.
Mais c'est en quelle époque ça, avec son cheval?
Ça devait être 2014, je pense. 2014, ouais.
Mais Kevin vient du passé, tu sais, c'est les visiteurs. Il est venu.
Ah non, mais attends, non, mais écoute bien. C'est que le gars, il arrive avec son cheval, mais donc il était pas sur scène, il était devant la scène, lui. Donc ils étaient devant la scène, et en gros, il se met à faire des trucs où il compte. Et son cheval, il lève la patte. Genre, son cheval, il compte. Genre, il lui dit 7 plus 2. Et le cheval, il fait un truc. Tout le monde fait waouh, il a trouvé 7. Et genre, un quart d'heure de lui qui fait ça. Là, ils nous disent bon, on va faire une petite pause. Sachant que tout le monde se barrait déjà. Il devait rester 80 personnes. Ouais, tout cassé, 90 personnes. Ça pue à la merde. Et là, donc, il fait bon, ça bientôt est à vous. Parce que là, elles viennent de commencer le show de coiffure. Et genre, on regarde. Et il y avait deux meufs assises sur scène, sur des chaises, face au public. Là, il devait y avoir 20 personnes dans le public parce que tout le monde s'en battait les couilles.
Oui, mais ouais.
Les deux meufs, c'était un concours de qui coiffe mieux, qui coiffe le mieux et tout. Et il fait, ok, et vu que ça va durer un peu longtemps, leur truc, ça va peut-être durer une demi-heure. Bah, vous, si vous pouvez faire 10 minutes chacun pendant le show.
Pendant le show de coiffure. En fait.
Ah ouais. Et là, bah, sauf que Edgar, tu vois Edgar qui fait, bon, non, Omar, viens là, je me rappelle, c'était moi qui roulais, il fait, bon, on va dans ta voiture fumer un pétard, Kevin. Il fume un énorme pétard, ils sont complètement défoncés. Même moi, Et du coup, on monte sur scène, Edgar, il fait « Non, on va déjà faire 10 minutes à 3, on va voir ce qu'on peut faire. »
Oui, oui, oui.
Du coup, on y allait à 3. Des enfants qui jouent au ballon devant, genre 20 personnes dans le public, une immense salle, les meufs qui font de la coiffure. Puis, bah, pareil, Omar, bah, lui, c'est tellement ridicule ce qui se passe qu'il commence à prendre la bombe, il fait « Hop, il taille la bombe de paillettes, l'autre, elle en a plein la gueule. » Il y en a que ça fait rire, il y en a, ils sont là « What, qu'est-ce qu'il fait ?» Il commence à bomber, moi, j'étais devant, j'étais en mode « Ah, ben, j'essayais de récupérer le truc comme je pouvais. » Et à un moment donné, j'entends juste Kevin, on a dû tenir 5 minutes. Hein. Il est là, Kevin, dépêche, viens. Je me retourne, il était déjà dans les coulisses à dire, viens, on se casse. Et on s'est cassé discrètement par un côté.
Mais tu sais qu'apparemment, ils vous attendent toujours. Hein.
Oui, c'est ça.
Ah non, mais.
Un énorme délire. Son brushing comme ça, genre, mais il va revenir.
Ah non, mais un énorme délire, quoi.
Incroyable. Mais qui vous a filé ce plan? Le mec qui vous a filé ça?
Je sais plus qui nous avait filé ça.
Non, mais c'est pareil. C'est qu'en fait, ça, c'est le gros problème du stand-up. C'est qu'en fait, la checklist, elle est pas longue pour faire un truc de stand-up. Mais s'il y a un des trucs qui est pas coché, ça fera pas, en fait. Et ce problème, c'est que les gens, ils se disent, s'il y a un micro, ça suffit. S'il y a des gens, ça suffit.
Non. En plus, il va faire beau ce jour-là. Ah non, c'est dehors.
Ouais, ouais. Oui, de ouf.
Mais je pense qu'ils te le disent quand t'es sur le chemin. En plus, il fera beau.
Ouais.
Je m'en fous, moi. Il faut juste lumière. Non, mais il fera beau, t'inquiète.
Ah, mais moi, c'est les gens, en général, qui savent pas organiser quoi que ce soit. J'ai envie de m'asseoir avec eux. Et leur dire, ok, comment tu pensais que ça allait se passer, en fait? Exactement. Et à chaque fois, je lui pose une question par rapport au truc, donc... Parce que t'as pas branché les micros et on allait jouer dans 5 minutes. Donc, qui allait les brancher les micros pour toi, là? Dis-moi, explique. Genre, leur bien faire comprendre, tu vois, que c'est des attardés mentaux, quoi. Moi, j'ai vraiment besoin que les gens, ils me disent au bout, pardon.
Trop de colère.
C'est quoi, là, récemment, il y a une meuf, elle me voit sur un plateau. Elle a faim, elle m'envoie un message. Ouais, je suis responsable d'un hôtel de luxe et tout sur les Champs-Élysées, ça dirait de venir faire un petit passage et tout, ça fait resto et tout, hôtel, c'est vraiment beau. Elle m'envoie les images, je réponds pas, j'en parle à un pote, je dis mais regarde et tout, j'écoute, soit tu parles avec elle, tu négocies le tarif, on voit et tout. Mais là, la meuf, elle est maligne, elle voit que, parce que du coup elle avait pris un MC, et le gars me connaît. Elle dit ah tiens, tu le connais, et ben ça tombe bien, ben fais lui venir et tout, dis lui c'est un plateau. Il m'appelle, il dit ouais, c'est un plateau, c'est cool, c'est bien, tu viens, tu joues, tu prends ton cachet, tu prends ton cash et tu barres. Je dis bon, allez. Ouais. J'étais sur le toit, il me dit ouais, t'inquiète pas. Je débarque. J'arrive dans le lieu, déjà, je vois un espèce de long couloir. Il y a un bar là-bas au bout. C'est quasiment des stands, c'est des stands. Il y a le stand. Il y a, c'est, j'ai oublié le nom, c'est Gypsy, ça s'appelle, comme ça là.
Je connais pas.
C'est. il y a une scène, si tu à côté il y a des gens qui se posent, qui mangent, font leur vie. De l'autre côté il y a un guitariste. Au bout là-bas il y a une coiffeuse. De l'autre côté il y a des vêtements. Et au fond karaoké.
C'est bizarre.
J'arrive, mais excuse-moi, mais c'est la cour des miracles ou c'est quoi ici? Elle me dit non mais t'inquiète pas, ça va jouer, c'est cool.
J'appelle. Genre c'est un marché, ils t'ont pris pour un stand où genre les gens ils allaient prendre une saucisse, voilà, et à côté écouter le milieu d'une blague, voilà. Et faire bravo, voilà.
Hein. Sachant qu'ils avaient, ils ont des résas derrière, juste en face de toi t'as des tables, des gens qui viennent pour manger, qui viennent même pas pour le spectacle, donc ils en ont rien à foutre de ton histoire. Ouais mais ça va l'autre jour, ouais c'est cool, tu baisses le son s'il te plaît parce que je suis en train de manger là. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que du coup j'appelle les collègues qui ont joué là-bas,
oui,
la veille. J'ai dit les gars, c'est comment? Ils m'ont dit mec, bourbier. Déjà, ils parlaient, à un moment donné, ils vont se faire sur un embrouille. Les jeunes, ils manquaient de respect. Et je repose la question à la meuf. Alors, c'était comment hier? Franchement, c'était cool. Hein.
Ah ouais, bien sûr.
J'ai dit, okay, cool.
Oui, alors. Mais il voit pas. Mais attends, par contre, là, ton ennemi, c'est ton pote MC, là. Il t'a emmené dans un. Parce qu'il a dit, vas-y, viens,
ouais,
c'est cool.
Ouais, bah, c'est cool. Et bah, sauf que moi, sur le coup, bah, les gars, c'est mon pote, parce que je l'ai bloqué sur Insta.
Ouais, ça va trop vite avec ça.
Je suis radical, Tu peux pas m'amener dans un bourbier pareil. Moi, le but pour moi, c'est. Et, tu sais quoi, je suis parti. Hein. Ils m'ont dit, ouais, mais on joue dans 10 minutes. Et allez, salut, sans moi.
Mais attends, juste pour info, c'était payé combien?
La meuf, elle a dit, ouais, je vous donne. Elle m'a dit, même si je joue deux fois, je te donne 100 balles.
Ça vaut tellement pas le coup.
Ça vaut pas le coup, déjà. Tu vois, il vaut pas le coup de salaire comme ça, bêtement.
C'est ouf.
Et tu joues, il y a des enfants qui courent comme ça devant toi. Bonsoir, l'autre jour. Pardon, excuse-moi. Bonsoir. Ouais. Viens là, Kevin. Ah, tu veux les Kevin.
Ouais, mais je comprends bien.
C'était moi.
Et en fait, parce que déjà, j'ai tellement refusé des comedy clubs parce que je trouve que si les collègues se lancent en tant que maître des cérémonies, donc du coup c'est à eux de booker, c'est à eux de faire en sorte que
ça se passe bien,
qu'il y ait un confort,
bien sûr.
Tu vois, qu'ils soient respectés en fait. On s'en fout de l'argent d'abord, c'est d'abord le plus important, c'est d'abord que quand ton collègue il arrive, qu'il puisse passer un bon moment. Tu n'as pas accepté de.
Ouais.
Il y a un comedy club qui m'appelle, je dis ouais, écoute, on a un lieu, il est sympa, viens, j'y vais. Il y a la scène, hein. C'est magnifique. Sauf qu'au milieu, il y a une espèce de gros poteau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se décalent comme ça pour te regarder.
Ouais.
Une partie de la salle, est divisée en deux. Il me dit, je vais faire un comedy club. Je dis, non, si je veux faire un comedy club, tu me casses ce mur.
C'est tout.
Impossible. Ouais, ok, bah tu sais quoi, je ferai les travaux. Je tourne le dos. Deux semaines après, il y a un autre collègue qui l'appelle. Oh, ça va, je peux. Moi, t'inquiète pas, moi, je peux t'organiser un comedy club comme ça.
Bien sûr.
Il a pris le plan derrière. Il a besoin même pas tenu deux semaines, et ça foire.
Parce qu'ils se sont rendus compte que pas voir la personne sur scène à cause d'un poteau, ça gênait, tu penses?
Non, mais
il veut vraiment.
Non, c'est même pas un poteau. Mec, c'était une espèce d'un truc énorme. Et la salle était divisée en deux. Je lui dis, mais casse ça, fais en sorte que les gens mangeaient de dos, il y a des gens qui étaient de l'autre côté, mais c'était horrible. Je lui dis, mais dans des telles conditions, on peut pas jouer. Je lui dis, moi, je peux pas inviter mes collègues ici. Pour qu'ils viennent se faire violent. Mais attends, ils vont rentrer chez eux en dépression, les gars.
Oui.
Dieu, après, tu sais ce qui me sort? Mais ils vont manger, ils vont prendre de l'argent. Je dis, ouais, mais ils peuvent manger chez eux aussi. les gens, ils pensent que les humoristes, c'est vraiment des clochards, en fait.
Ouais.
Mais vous allez manger, ça va.
Ouais, c'est marrant, ça.
C'est combien de temps vous mangez pas?
Non, mais Charlie, tu comprends pas. Le repas sera gratuit. C'est.
Est-ce que tu te rends compte?
C'est à ce niveau de genre. En vrai, c'est comme un gars qui te tend la main et que toi, t'es vraiment dans la rue. Ouais, c'est ça.
C'est vraiment ça. C'est genre, vas-y, mais t'inquiète pas, tu feras des blagues. Ça va,
non, mais Kevin, il fera chaud. Il y a du chauffage.
Il y a du chauffage.
Mec, ça va aller.
Tu vas
mais ça, c'est fou aussi. Hein. Ça, c'est souvent en province, hein, en vrai. Hein.
Oui,
où
oui.
Tu dis, ouais, tu viens. On te défraye l'aller, pas le retour. Alors déjà, tu vois. Truc, hein, là-bas, tu verras.
Tu vas vivre chez nous après. Tu vas voir, la ville est telle. C'est un village fleuri 2012. Tu vas kiffer.
Il n'y a que ça chez moi.
Tu vas dormir avec moi, t'as dit, c'est bon.
Et en fait, la boulangère, tu te maries avec elle et c'est là-bas que.
Là, ce serait magnifique en vrai. Sauf que là, il t'offre pas tout ça.
Ouais, mais non.
Non, là, c'est vraiment genre juste, tu manges. Eux sur le papier, c'est vraiment cool. Ils disent
oui.
Tu viens, il y aura 250 personnes. Oh, t'es content, tu dis 250, c'est beaucoup. Sauf qu'ils disent il y aura 250 personnes, ça va pouvoir te permettre de te faire connaître. Tu vois.
Ouais.
Ouais, 250 personnes à Montaigu, et ça va m'aider à me faire connaître. Je pense vraiment que la moitié des gens, ils seront morts dans deux ans.
J'aime bien me mettre dans leur vie et je vois comment ça s'est passé. Je vois qu'il y a eu une réunion à la mairie et qu'ils ont passé 25 minutes à dire chez qui on va louer les chaises. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais Dédé, machin, pour 250 euros, machin. Et en plus, c'est un pote, mais 300 comme ça, hein, il fera passer, tu sais. Par contre, à la fin de la journée, ils se sont rendus compte, ah, mais c'est vrai qu'on a proposé à personne de faire le spectacle. Mmh. En fait, toi, tu es un... Ah ouais, toi, t'es un astérisque dans le truc qui était censé être principal,
toi,
en fait.
Toi, ouais. toi, t'es la vis qui manquait. Ah oui, sinon, la scène, elle va tomber.
Du coup, quelqu'un. Le budget, bah ouais, non, il nous reste SNCF, quoi. Il nous reste 50 euros. De...
Ça, 50 euros. Tu peux me parler avec un mec là-dessus qui fait des carrières comme sa vie? C'est possible ou pas?
En vrai, il y a Emma, une pote, Emma de Foucault, elle a un... Et c'est dans son spectacle, je sais pas si elle le retire ou elle le met parfois dans son spectacle. C'est justement genre le trauma d'un festival à base de jury, etc. Et que bon, je vous spoil, c'est juste qu'elle fait un rap après où elle nique tous les gars du jury qui lui ont parlé avec leurs conseils de merde. Et c'est trop drôle. Allez voir Emma de Foucault. Allez voir mon spectacle d'abord, déjà. Mais en tout cas, elle fait ça. Et c'est trop vrai, en fait, tout ce qu'elle dit. C'est des trucs que t'aimerais tellement dire en direct sur le moment. De genre, bah, taisez-vous tous, vous savez pas faire votre travail.
Ouais.
Mais en fait, tout ça, le délire, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui ont... J'ai l'impression que, vu qu'il y a tellement pas cette culture stand-up en France, que certains, il y a certains organes qui sont complètement paumés. Ils sont à côté de la plaque, ils comprennent rien du tout. De minuit, quand ils t'appellent, quand tu leur dis, mais c'est comme ça les tarifs. Ah ouais? Pour 5 minutes? Ouais.
Ouais.
Ah ouais?
Ouais.
Mais pourquoi 5 minutes, vous prenez temps?
Parce que.
Une heure, c'est ça. Une heure, c'est minimum 1500 euros pour un spectacle, monsieur. Si tu veux le spectacle d'un humoriste, qu'il soit connu ou pas connu,
ouais.
C'est minimum 1500 euros.
Non, mais il faut mettre des standards, en vrai. Il faut un petit syndicat de nous, tu vois.
Bah oui.
Et où on met des minimums comme ça.
Oui, mais le problème, c'est que tu auras toujours un humoriste qui va dire, ouais, vas-y, je fais mon spectacle à 150 euros, vas-y.
On va pas se mentir, mais le répétez pas, hein, les gens qui écoutaient le podcast, mais parfois, tu sais, il y a des entreprises, tu sais, qui t'appellent et qui te disent, oui, venez faire 15 minutes, on va vous payer ça. Et c'est toi qui fais genre, ah oui, vous allez me payer ça pour que 15 minutes. Très bien.
Oui, c'est vrai. Oui, ah bah oui, complètement.
Et tant mieux.
Tu sais, moi, j'ai fait 20 minutes pour l'entreprise, j'ai pris 4 000 euros.
Yes, putain!
20 minutes, j'ai fait 20 minutes. Franchement, quand j'ai terminé, je suis parti en courant. Parce que
oui, ils vont se tromper. Ouais. Ils vont se
rendre encore du temps. Non, je suis parti, moi.
Ouais.
C'était 20 minutes, hop.
Ils vont se rendre compte
qu'ils... Ils ont fait un virement à l'avance. Ils ont dit, on te paye en avance. Genre, tu viens. J'ai dit, waouh!
Mais c'était quoi ce truc? C'était le...
T'as pas eu l'impression d'avoir volé les gens un peu? Moi, c'est vraiment, j'aurais un petit côté de moi qui me serait dit.
Négo, si t'es prêt à donner. Mais non, mais c'était ultra risqué, c'était le Ku Klux Klan. Il est parti. Si tu arrives à t'en tirer vivant, tu gardes les gazmélans.
Si t'arrives à les divertir, c'est cool, franchement. Parce qu'ils font pas que tuer les noirs. Ils rigolent de fois, tu vois, avant de les tuer. Donc, j'étais là pour ça, tu vois.
Ça te dérange pas la chaleur parce que tu pourras jouer devant des croix en feu.
Mais t'es payé 4 000 euros, ça va Charlie? Ouais, c'est bon, je vais pas tort. Et des fois, j'ai des scènes, des moments comme ça, on m'invite pour aller faire des shows, j'arrive, tu jures, quand les mecs, tu reviens à ton compte, ils ont fait un virement, t'es là, tu dis, mais waouh!
Ouais, bah c'est sérieux. Oui,
et en plus, mais... t'envoies un chauffeur, il vient te chercher, il te ramène, tu rentres, tu joues. J'ai dit au chauffeur, viens, on se casse. Même avec lui, j'y viens, on est complices, on se barre. Il m'a dit, mais vous pouvez rester à manger, genre, j'ai peur de le regarder en fait. Est-ce que tu peux le rendre 2000?
Ah ouais, non mais oui, mais c'est ça. L'assumer derrière, moi c'est ouais, ça que j'aurais ça, comme problème, c'est de me dire, t'as fini et là tu fais 4000 balles.
Et après tu la regardes, ouais, du coup, c'était bien, mais en fait on s'est rendu compte avec la compta, on a un peu donné, on s'est un peu lâché là. Et le pire c'est qu'il m'a pas demandé. C'est vrai qu'on dit on est prêt à te payer 4 000 euros.
Oui, bah tu dis oui.
Bon, allez, si vous assistez.
Oui. Non, mais après, tu fais genre, bon, écoutez, pour vous, je veux bien le faire.
Écoutez,
pour
ça. Tu sais, après, tu vois, des fois, il y a des moments comme ça où tu arrives, tu te dis, waouh, on te respecte, tu vois. Les CE, ouais, ils ont beaucoup d'argent.
Oui, oui.
Tu vois, et, voilà, ils ont un niveau.
Mais la vérité, c'est qu'en vrai, franchement, pour les CE que j'ai fait, où effectivement, bah, c'était bien payé, mais en fait, c'était très... c'était très bien en fait. C'est-à-dire que moi je me mets à la place d'un comptable, j'en sais rien, ou les trucs qu'on avait fait. Bah oui, t'as passé une bonne soirée en fait. Mmh. Donc on n'était pas là pour rien. Donc heureusement qu'on a été payé ce qu'on a été payé.
Ouais,
ah,
mais c'est ça.
Ouais, ouais.
C'est ça. Mais là après, vous disiez, bon après les CE, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est que les humoristes devraient à un moment donné fixer une.
Le problème, c'est qu'après, ça veut dire que n'importe quel connard qui est capable de parler pendant une heure, il va prétendre à un spectacle à 1500 balles aussi.
Bah, tu parles de Koé encore.
Pas forcément.
De qui tu dis?
Tu parles de Koé encore. Non, non, mais après oui, c'est ça le truc, c'est que à tout moment aussi, tu peux avoir les briseurs de minimum syndical. Tu sais, les gars, ils disent non, mais moi je vous le fais pour deux fois moins, pour être, pour percer plus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que.
Derrière... Bah, c'est ça, parce que le problème de 1500 balles, c'est que avant qu'on t'appelle.
Oui, non, non, oui.
T'es obligé de passer par des sommes moindres.
Bah oui. C'est
au début, ah, t'imagines, t'as zéro expérience, t'es baisé.
Ah hein. Non, tu commences pas comme ça à 1500. Faut dire que tu es déjà.
Tu rayonnes un peu. Ouais.
Voilà, que voilà, les gens, que les gens te réclament.
Ah, mais Charlie, on n'a pas tous ouais. fait le Jamel Comedy Club.
T'as pas tous fait. Ah, merde. mais qu'est-ce que je fais ici en fait, à la base? Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi au téléphone? Tu m'as dit Charlie, viens. C'est la troupe du Jamel Comedy
Club. Mais de toute façon, t'as reçu mon virement de 4000 euros avant de venir dans ce podcast ou pas?
Ouais, c'est vrai. Je suis à la toilette.
On va directement.
Mais tu vois, mais après, c'est vrai que dans ce milieu, oui, on se rend même pas compte des fois des gens qui viennent nous voir et à la fin qui disent putain, bravo, j'étais pas bien, je suis venu vous voir et j'ai pas, franchement, on m'avait mis bien. Mm. Je crois que c'est le meilleur médicament, quoi, faire rire les gens. Et non, et là, les organisateurs ne se rendent pas compte quand ils viennent nous dire des fois, ça va, vous faites rire les gens, c'est tout. Hein. Comme des fois, là, ils veulent se comparer aux humoristes. Ouais, mais en fait, y a des salles comme ça. Hein. Une fois, tu arrives dans une salle et tu tombes avec des mecs dans leur tête, ils sont drôles. C'est des comiques dans leur tête. Et du coup, à chaque fois, tu parles, ils parlent en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le mec va improviser. C'est là où tu vas au charbon. Et moi, j'aime ça parce que comme j'ai fait plusieurs scènes un peu chelou comme ça, où ça devait sortir des couteaux.
Tu reconnectes avec un peu le petit mini fight de dire non, non, c'est moi qui suis drôle en fait ici.
Non, mais il y a ce côté-là. Tu sais, j'ai joué dans une prison, mec. Une prison, j'ai fait la tournée des prisons du Sud.
Qu'est-ce que tu fais comme set quand t'es en prison?
Bah, bon, après, il y a des questions que tu n'oses pas la poser. Est-ce que ça va? Non, c'est chaud.
C'est très
ça
limité.
Va ce
quoi.
Soir, c'était est-ce pas que... trop dur de trouver est-ce pour venir que... ici.
Est-ce que...
Ah ben non, mais ouais. Hein.
Est-ce qu'il y a des choses ce soir?
Le réflexe.
Le truc stand-up quoi. Vraiment, vous êtes venu en couple ou célibataire? Vous êtes.
Ouais.
Ah non,
voilà, mais cela dit, est-ce que le directeur de la prison ou quoi vous dit il y a quand même des sujets genre vous pouvez pas en parler ou pas spécialement?
Non, pas
non
tout,
c'est genre c'est libre.
Pas du tout, vraiment. Okay. Mais du coup j'ai fait ça avec Tariq et on a joué à Nice et Nice je monte sur scène, je commence à jouer, bon je monte sur scène, ils ont mis un tapis, tu vois, et c'est une prison. Et après ils ont une petite salle, hein, un petit truc. J'arrive et tout, je commence à jouer.
Et une salle de polyvalente, genre?
Ouais, polyvalente. Mmh. Oh, tu te dis, mais attends, mais vous faites des...
Là, c'est là où ils font les viols.
Ah
les
oui.
Et c'est quoi, je commence à jouer. Je commence bonsoir, ouais. Et d'un coup, genre, déjà, tu te dis à quel point les surveillants, ils sont pas respectés. Il y en a un, j'entends un détenu qui dit, un Robocop. Je dis, je retourne, je me dis, mais c'est qui Robocop? Il dit, ouais, c'est le surveillant, là. Je dis, la tête, mec, tout cosse comme ça. Il arrive et tout, et il se foutait de sa gueule. Ah, Robocop, ça va ou quoi? Et je dis, bah, normal, détente. Je dis, ok, cool. Bah, si c'est comme ça ici, si lui, personne ne le respecte, à tout moment, ça va partir en couille, en fait. Si je comprends bien, c'est que...
À tout moment, il est pris en otage, Charlie.
À tout moment, je dors avec eux, quoi, c'est ça. Et il sort, ce Robocop. Il revient, il fait... poussez-vous, les gars. Et ils ont compris pourquoi. Moi, j'ai pas compris. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois des meufs rentrer. Ils ont ramené des meufs.
Des meufs. Des
cellules, il y avait des prisons femmes à côté. Okay. Ils ont ramené les femmes pour aussi voir le spectacle. Sauf que ils mettent les femmes derrière les mecs. Ces mecs-là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu une femme. Et toi, t'es devant en train de faire les blagues. Mec,
ah
c'est
ouais. Oh là là,
tout le monde regarde les meufs. Ça va,
ouais.
Bien ou quoi? Ça va, la balafre et tout. Bien, c'est bien. Tu l'as depuis longtemps, toi. Ça va.
et toi, t'as... excuse-moi les gars, je suis en train de faire. Bah, je vous comprends, allez-y, faites-vous plaisir.
Bah,
tu vois. Et ça, c'est le moment où vraiment il fallait jouer, improviser, mais c'était kiffant. Mais on a une scène où c'est vraiment parti en couille. On joue à Grasse, Tariq il monte sur... à chaque fois on alternait, Tariq il monte sur scène, il commence à jouer. Au bout de une minute, il y a un mec qui est devant, il est énervé. Deuxième rang, il se lève, il fait putain, il me rend fou. Lui.
Oh merde.
En parlant de Tariq, c'était clair, Tariq. C'était Tariq. Voilà, ouais.
C'était Tariq, il y a personne d'autre derrière. Putain, il me rend fou. Après, il s'assoit. Il se relève, il regarde Tariq, il fait c'est quoi ce t-shirt là? Putain. Et là, il sort. Et là, il sort. Les surveillants disent non, tu retournes à la salle. Et là, lui, il voulait pas rire. Ça se voit qu'à la base, il n'avait pas choisi l'humour. C'est peut-être, peut-être pour les surveillants, c'était une punition.
Ouais.
L'humour. Genre,
ouais, ouais, c'est là, ça.
Tu vas taper des guignols.
À cause de l'émeute de la semaine dernière, vous allez regarder Tariq et Charlie New.
Le mec, il craque, il se lève, il sort. Les surveillants disent tu retournes à la salle. On l'entend, le dehors. Il dit retourne. Il dit vas-y, je peux pas aller. Vas-y, rentre. Il rentre. Du coup, il se met au premier rang. Énervé. Il regarde Tariq. Putain. Il dit arrêtez, il me rend fou. J'ai envie de lui casser ça. Et là, Tariq, il fait. Tariq, il transpire. Tu sais, là, il transpire vite. Et là, de l'huile. Ça va, frérot? Et il dit à Tariq, parle pas avec moi, toi. Et là, oh, balèze. Tariq fait faites du bruit pour Charlie Yobé.
Le bâtard.
Il a fait 30 minutes chacun, ce bâtard. Il a fait 3 minutes. Déplacement compris, hein. 3 minutes, il a fait le bâtard. Et là, il fait Charlie Yobé, du bruit pour lui. Je suis enfoiré. Et là, j'arrive, je prends le micro. Le mec, je dis. Frérot, on est là pour passer un bon moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il dit, t'en suis pas avec moi, toi. Je fais, écoute, moi, par contre, moi, contrairement à Tariq, ça va se terminer ici. Il dit, si tu veux faire le malin, je descends avec le micro et je t'encule avec le micro. C'est bon comme ça? La salle. c'est comme ça. C'est. Ah, il veut. Et les gens dans la salle, ils font, ah ouais. Et les surveillants, ils commencent à paniquer. Et merde. On s'attendait pas à ça. Et même lui, le gars, était pas prêt. Il dit, ah ouais, ah tu parles comme ça, toi? Viens voir. Et là, je descends. Il dit, viens voir. Et là, je descends. Et là, du coup, t'as les surveillants qui arrivent. Ils m'attrapent. Non, c'est bon. Je dis, non. Je dis, laissez-moi, je vais m'occuper de lui. Parce que ça y est, tu penses que t'es en prison, tu te prends pointure. Allez, calme-toi. Si t'es en prison, c'est parce que t'es bête. On t'a attrapé, c'est tout. Les gens ils rigolent.
Ah putain.
Ah ouais,
heureusement. T'as décompressé à la dernière seconde.
Ah oui, j'ai dit arrête de faire le malin. Ah oui, j'ai dit arrête de faire le show. T'es là, tu fais le Pablo Escobar. T'as même pas un euro dans ton compte. J'ai dit calme-toi. On t'a arrêté pour deux boulettes de shit. Ça y est, tu prends pour Pablo Escobar. J'ai dit dégage là, toi. Et les gens ils rigolent, ils se foutent de sa gueule et tout. Après, j'ai dit écoute, moi par contre, moi je t'explique. Hein, moi je reste pro. Je termine mes blagues. J'ai une demi-heure. Et attends-moi à la sortie. Après, je fais attends, merde. Quand je dis la sortie, je te vois venir. Tu vas aller ranger tes affaires. Tu vas aller voir le gardien. En fait, Charlie m'a dit de t'attendre dans un bar en face. Mec, derrière la porte, ok, fais pas le malin. Et après, je joue. Ils rigolaient tous. Ils rient. Je dis, attends, peut-être parce que comme j'ai menacé le gars avec le micro dans le cul, peut-être c'est ça qui les a détendus. Et je te jure, mais c'est là où tu te dis, mais putain, l'expérience de fou, quoi, tu vois. Et Tariq, c'est en prison. Tariq, il n'en revient pas. Il a dit, ce mec a voulu taper un mec dans la prison.
Ce que tu sais pas, c'est que maintenant, genre, il a des photos de toi dans sa cellule et tu sais, il envoie des lames de rasoir dessus.
Des fois, il me voit peut-être passer, il fait avance, c'est ça, et c'est lui qui met les sales comme ce connard.
Oui, c'est ce que tu remarques. Il a 46 comptes billets réduits.
Parce qu'il a le temps. Okay. Il peut créer plusieurs comptes, ça m'a les couilles.
Ah, ouais, non, mais c'est... Ouais, j'avoue que ça fait peur, ouais, c'est chaud. Ouais.
Mais
là, t'as désamorcé la bombe. Genre, c'est comme dans les films, tu sais, où tu coupes le fil au dernier moment. Là, t'as réussi à les faire rire.
Au... c'est le moment vraiment quand les mecs étaient. Il y avait un malaise, genre, tout le monde était tendu. Quand je lui ai dit, je vais te casser ta bouche devant tout le monde. Je lui ai dit, tu sais quoi, je vais mettre ta poêle ici, c'est bon comme ça. Et là, j'ai descendu de la scène. Et là, tout le monde malaise. Ah, il va vraiment se taper, c'est vraiment un mec lui.
Toi, t'étais prêt à te foutre sur la gueule là.
Ah, moi j'étais prêt. Mm. Je suis descendu, j'étais prêt. Moi, je dis, moi à la base, j'avais le micro. À la base, le micro était là, je voulais le balancer, lui envoyer un crochet.
Ah ouais, ouais.
C'était un costaud
comme toi, tu vois.
Ah oui, t'as pas pris de grand risque. Il n'y avait pas trop de risque, quoi. Moi aussi, j'y serais allé en fait.
Bah oui, mais tout le monde serait allé, vraiment. C'est Tariq, apparemment.
Ouais, bah, Tariq, il a dû se dire, bah, à tout moment, le gars, il est en prison, tu sais, il a mangé 27 ouais, personnes,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est ça, il y avait le côté où le mec, il est en taule.
Ouais, fou, un peu.
C'est pas ce qu'il a fait, ouais. C'est pas c'est qui dehors, Pas qu'est-ce qu'il fout, est-ce qu'il en a des il a des contacts. Du coup, il a eu peur. J'ai dit, écoute, moi, je m'occupais de ce mec-là, tu vois. Moi, il fait pas du tout peur.
Moi, je vais pas faire ça. Pour 4000 euros, peut-être.
Pour 4000 euros
tu... Non, non, non. En prison.
Pour 4000 euros.
Jouer en prison.
Est-ce que tu joues à poil à la télé?
Non.
Pour 4000 euros?
Non. Ah non, mais moi, t'inquiète. Moi, je fais pas ça pour l'argent, tu sais.
Pour, vrai, 10, 000, non, pour vrai, 10 000
la,
euros.
La réalité, c'est que moi, si je voulais faire quoi que ce soit pour l'argent, je serais dentiste, en fait. Je continuerais à juste être dentiste 5 jours par semaine.
Oui, et... mais maintenant, imaginons. Pour 30 000 euros, Fleur et Michon, ils mettent 30 000 euros sur la table.
Fleur et Michon, ouais. Me voir nu.
Ok, bon, pour combien t'aurais fait la pub pour Flunch?
non, après une pub pour de la, même de la merde, oui, moi je prends un cachet normal pour de la merde. Mais
ah
parce
oui
que moi, après, je serais là dans ce podcast à rigoler du fait que j'ai fait la pub pour Flunch, quoi.
Ok, et à poil par contre, c'est pas possible.
Non, à poil, j'ai envie de.
Tu préfères donc vendre un produit de merde et pousser à la consommation?
Ah,
plutôt que de montrer non, ta bite.
Mec, moi, tu me connais pas. Moi, si Flunch demain me dit ça.
La société
ça,
marche à l'envers.
Genre, je fais de la pub. Mais même, je finis par dire le mot Flunch dans tous les épisodes de podcast. Tu sais, le meilleur endroit où j'ai mangé.
Mec,
c'est prêt, un Flunch.
Il serait prêt à appeler son enfant Flunch, quoi. Vraiment, le mec, il est prêt à tout, quoi.
Serait pas comme
j'ai dit, je rends vache, moi.
Mais en tout cas, je suis capable de faire une vanne, mais que je tiens toute ma vie pour dire aux gens qui me connaissent pas, mais que mon premier enfant s'appelle Flunch, quoi. Tu vois ce que j'ai? Je leur dis à tous, là, j'étais avec Flunch au parc, et tout. Non, mais vraiment, je l'ai vraiment appelé Flunch. Ce sera pas vrai, bien sûr, mais je fais ça. Parce que moi, ça me fait rire, les gens qui se vendent, justement, pour une marque, et du coup, je forcerai le trait de malade, en fait, juste pour le fun, quoi.
Ouais,
juste
ouais.
Pour dire, genre, je sais pas, moi, vraiment, ce qui m'a sauvé la vie, c'était Flunch, quoi. C'est...
Oh, ce serait vraiment très méta quand même. Hein.
C'est très méta, mais moi j'aime bien ça. Parce qu'en vrai, je déteste la pub. C'est-à-dire que je déteste le concept de pub. Mais je le dis souvent, genre je suis prêt à me vendre. Donc allez-y, mais moi je suis prêt à me vendre. Genre si la Chine, l'ambassade de Chine sponsorise mon podcast, à tout moment je dis non, mais en vrai, les Ouïghours, ils le cherchent un peu, tu vois, ils sont là, ils parlent trop fort, quoi, je trouve, dans le truc, voilà.
Et ce que tu décris, c'est la vie d'influenceuse.
Exactement.
Donc en vrai,
sauf que moi,
tu préférerais être influenceur.
Je vais bien forcer le truc pour qu'on comprenne que c'est inadmissible, tu vois ce que je...
Non, mais tu te retrouverais piégé à ton propre truc.
Peut-être, t'as raison.
Mais typiquement, Dieu donné.
Ouais.
Genre, où on te chope sur un point et
ouais.
tu vas en faire des caisses jusqu'à temps. Qu'on comprenne que c'est de la blague et ça fait tout l'inverse. Tu te retrouves
et les gens te prennent au
piégé,
sérieux depuis le début. Ouais.
Piégé dans ton propre truc.
Franchement, non, après, c'est difficile de.
Ah, en fait, que je joue là.
Ah merde! Mais non, mais.
Ah, tu joues! Ah, je me demandais,
il
a le téléphone avec Dieu donné. Merde! Il a son contact.
Non, mais attends, mais on va te laisser. De toute façon, écoute, là, on a fait une bonne heure avec quelqu'un. En vrai, je croyais même pas. Je croyais finir un peu plus tôt d'ailleurs. Oh putain, mais plus même,
ah
d'ailleurs.
Bah ouais, on a fait bien.
Les gars, est-ce que vous avez un peu de pub à faire, justement? On parlait de pub. Est-ce que vous voulez faire de la promo pour vous-même? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charlie?
Alors, moi, on peut me retrouver. Je ferai... déjà, je fais plus de la promo pour ce qui va arriver. J'ai tourné dans un film qui sort début mars dans tous les cinémas.
Vas-y, balance le nom.
Les Cinq Pas.
Les Cinq Pas?
Les Cinq Pas.
Ah, Les Cinq Pas.
Ouais.
Okay. Ça se tient.
Réalisé par qui?
Cohérent.
Réalisé par Mandarin. Oulala. Réalisé par Mandarin Prod et Kalush Productions.
Ok.
Et donc le groupe Canal Plus.
Ouais.
Et donc voilà. Donc là, on a signé trois films avec eux. C'est une espèce de saga. C'est Les Cinq Pas, le premier, Les Cinq Pas en Thaïlande et Les Cinq Pas au ski.
Ok.
Tu vois?
Vous avez fait une trilogie dès le
début,
quoi. En gros, c'est les nouveaux bronzés, quoi, un peu.
Exactement, c'est ça.
Tiens, c'est trop marrant.
J'ai tout compris.
Bon, ça, c'est en mars 2022. De toute façon, après, je mets les liens de tout le monde, Instagram et tout, sur le podcast. Spectacle ou pas? Je sais plus du tout si tu...
Oui, bien sûr, j'ai mon spectacle. Là, puis, sauf que je bouge beaucoup avec, je tourne beaucoup avec mon spectacle. Là, je devais jouer avec... je vais reprendre le Théâtre République, mais là, j'ai peur. Je ne sais pas exactement à quel moment le gouvernement, ils veulent le reconfiner. Ah, oui. Ils veulent dire, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal en ce moment de prendre le risque.
Ouais, de
prendre une salle, ouais. de dire à un producteur, vas-y, paye cette salle. Sachant qu'on ne sait pas, à un moment, ils vont dire, tiens, jauge,
oui.
Ils vont avoir divisé la salle en deux.
Ouais, ça se fraîchit.
Le prod, il perd de l'argent, parce que lui aussi, derrière, il te retire un peu d'argent. Il se dit, mais écoute, on ne peut pas remplir une salle parce qu'il y a des gestes barrières à faire. Donc là, l'autre, plus ça avance, plus on
ouais.
ne sait pas ce qui va se passer. Quoi, tu vois.
Bon, au pire, tu fais une petite pub pour Flunch, et puis ça...
allez manger chez Flunch, c'est important, les amis.
Bon, ok, de toute façon, oui, à la limite, on te suit sur tes réseaux sociaux, on saura directement quand est-ce que tu reprends le... Et toi, du coup, Kevin?
Absolument rien.
Absolument rien.
Non.
Mais pour te donner du pouvoir,
ouais.
sur les réseaux sociaux, on peut s'abonner à ton MySpace, quoi.
Exactement. Okay. Me suivre sur mon Skyblog que j'essaye d'actualiser tous les mois, une fois par mois.
Nickel.
Ouais. Non, et sinon, ouverture d'un comédie club à Nantes.
Ah, mais c'est une trop bonne nouvelle. Ah,
un vrai de vrai, ça. Il y a les gars de Nantes.
Pour tous les gens qui écoutent de Nantes, ok.
Ion, Bertetto et Max.
Ouais. Vas-y, ça passe, ça
trouvait des mecs qui ont acheté un bar et en gros ils les ont mis à la gérance et ça va être un vrai comedy club
okay.
couvre là en décembre.
Super.
Et pour l'instant je crois que c'est jeudi, vendredi, samedi et puis après si ça remplit bien que ça sera ouvert toute la semaine.
Bon, c'est super. Et le nom, il n'y a pas le nom encore qui est sorti?
C'est le nom, je sais pas s'ils veulent le communiquer encore.
Ah ok,
ouais.
Et Sophie Bergeau qui était là pour dire quatre trucs.
Pour rigoler surtout.
Pour rigoler. Mais heureusement
si
que t'étais là.
Si vous avez besoin de quelqu'un pour rigoler dans un podcast, tu l'as, je suis pas cher.
T'es là.
Ouais.
Juste,
ça coûte un café.
Ouais, juste 4000 euros et un café.
Bah, non, merci. Par contre, tu sais, tout à l'heure, on parlait des gens là, de l'argent dans les CE.
Ouais.
J'ai pris un café avec un gars qui m'expliquait qu'il y avait un mec qui faisait un pot de départ dans une entreprise.
Ouais.
Et son délire, donc dans une entreprise genre cosmétique, luxe et tout ça.
Ouais.
Son délire, c'était je veux faire 10 minutes sur moi de blagues.
Ok.
Et du coup, il payait ce type pour qu'il lui écrive des blagues.
Oui.
Et
sur lui-même.
Ouais, sur lui-même, sur lui, sur sa carrière et tout, tu vois.
Ah oui, et il finissait, du coup, il allait à la retraite en disant ces blagues-là. En fait.
Ah ouais, et en disant, je suis un putain de comique, quoi. Je fais de la scène et je fais des blagues sur moi et je fais mon stand-up
ah,
de
ouais,
moi.
D'accord, un ego trip un peu.
De ouf, de ouf. Et du coup, en fait, ce qu'il lui a demandé, c'est un roast. Et en fait, donc, il commence à lui écrire des vannes sur lui et tout. Et lui, il est mort de rire d'écrire des vannes
Mais
sur
oui.
un mec, tu vois. Et le mec lit les vannes et il dit... Ah ouais, non, en fait...
ça va trop loin, finalement, c'est ça
ouais, et du coup, il dit, non, mais là, on va calmer un peu ça, et puis, en fait, peut-être qu'on va dire des choses bien sur moi, tu vois.
Ah ouais, ouais. Non, mais c'est assez dommage, parce que ça aurait pu créer un nouveau business de, les gars, on fait le départ en retraite de tout le monde, on pourrait écrire les au revoir de pas mal de monde, quoi. Ça aurait été drôle. Ouais, c'est...
À la fois, c'est vachement couillu, enfin, je sais pas comment il fonctionne, le gars, pour se dire... Ok, je vais embaucher quelqu'un pour écrire 5 ouais. minutes de blagues que je peux faire moi,
sur
à
moi.
Propos de moi,
ouais.
mais qui me dévalorise pas. Quand genre, il n'y a rien qui va dans le,
oui,
dans le projet, quoi.
Mais j'avoue. Ça traduit le fait qu'il a vraiment envie de parler de lui.
Oui,
et
oui.
Il s'aime beaucoup,
là, j'avoue,
beaucoup quoi,
ouais,
tu vois.
Ouais.
C'est ça, un mec de chez L'Oréal, donc c'est pas étonnant.
Ah oui, mais bien sûr. Mais parce qu'il est, il le vaut bien, c'est pour ça.
Exactement.
Et moi, prenez des places pour mon spectacle les jeudis à 21h30 à la Petite Loge. Voilà. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast et de vous abonner à tous ces comiques, ok. qui puissent dire après, genre, ah oui, quand on passe chez Areski dans le podcast, on gagne 5 abonnés. Hein. Et j'en profite pour dire bah, bisous à tous les gens d'Irlande et de Portugal qui écoutent et qui font que je suis dans les charts de ces deux pays. Et je sais pas pourquoi, donc bah, tant mieux. Bisous à tous.
Ça veut dire que t'es dans les recommandations? En Irlande?
Ouais, je suis dans le top... Enfin, ça dépend, ça change, mais dans le top 100, j'étais de comédie interviews, mais Portugal et Irlande. Ça dépend, ça change. Parfois, tu sais, tu apparais sur un pays... En général, c'est après les épisodes en anglais, parce que je fais quelques épisodes en anglais.
Ah,
et
ouais.
D'un coup, il y a plein de gens qui écoutent, mais d'un pays qui, en général, n'écoutent pas le podcast parce qu'on parle français, quoi. Et
okay,
d'un coup, je peux faire une apparition comme ça, genre un peu... Coucou. Mais j'imagine que forcément, le reste des Suédois, ils cliquent dessus, ils disent « Ah, je ne parle pas cette langue. » Tout ça pour dire bisous à tous et passez une bonne semaine.
Ciao. Bah, merci à toi.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.